pratique relativement récente aux imaginaires. Et pourtant, je vais dire qu'elle a non seulement toute sa place, mais elle est même assez symbolique, puisque quand on voit aujourd'hui comment les imaginaires sont installés avec une mine de rien, nous sommes peut-être presque une incarnation de la fantaisie urbaine dans les Vosges pendant quelques jours chaque année maintenant. Et vous aurez noté que nous avons commencé une expansion qui devrait nous amener d'ici quelques années à conquérir le monde entier. Pour ça, mais le moment, on imagine la chance, ça serait formidable. Pour parler de ce sujet de la bonne fantaisie, on a un plateau avec vous allez voir des univers assez variés, on va pas mal voyager, hein, puisqu'on va quand même faire trois continents, quatre pays. Ça va être sympa. Je vais commencer, ça lui apprendra à avoir eu un prix. C'est vrai. C'est normal, je demande de prix Malinal, Lucien, cette année pour l'exil, premier volet d'une trilogie, donc étiqueté Urban Fantasy, parce qu'après, on va voir si on va pas encore se faire taper sur les doigts par des gens qui vont dire non, mais moi, mon roman, c'est pas Urban Fantasy. C'est quoi l'Urban Fantasy pour rester le Wagner?
Ma définition, c'est ça se passe dans notre univers, à notre époque, mais avec des créatures surnaturelles, tout simplement.
Pourquoi ce choix d'aller vers l'urban fantasy, justement? Et justement, pourquoi ce genre-là en particulier, puisqu'il y a cet aspect, cette dimension du réel qui peut sembler presque paradoxal quand on se décide à écrire de l'imaginaire?
Je suis à la base une grande lectrice du genre. J'adore. Ce sont des lectures que j'aimais avoir après une journée de travail. On en a marre, on en a plein la tête, et ça permet vraiment de se détendre, de voyager. Il y a souvent aussi. Très souvent une héroïne forte qui aime bien botter un peu les fesses des gens. Et je pense que ça fait du bien aussi, encore à notre époque, malheureusement, de se sentir une forme de pouvoir. Ça contrebalance un peu la vie réelle.
C'est un genre très anglo-saxon, là, pour le coup, qui se développe tout petit à petit en France, en tout cas, qu'on importe véritablement. Il y a aussi ce choix-là, ce double choix qui était un de le placer en Lorraine, ce roman, ce qui était quand même déjà pas un petit pareil. Et puis dans l'époque contemporaine, parce que c'est vrai que l'urban fantasy, c'est aussi souvent marqué par l'époque victorienne, entre autres. Pourquoi ces choix-là aussi?
En Lorraine, parce que voilà, la plupart des romans que je lisais se déroulaient pour la plupart aux États-Unis, hein, clairement. Et justement, j'ai envie de dire pourquoi moi, en tant qu'auteur française, j'irais placer mon histoire là-bas. Et j'ai pas mal voyagé quand j'étais jeune avec mes parents en France. Et il y a tellement de belles choses chez nous. On a tendance à regarder partout ailleurs et on oublie ce qu'on a chez nous en France. Et c'est pareil quand on parle de montagne, les gens pensent aux Alpes, aux Pyrénées, ils oublient les Vosges. Sont juste magnifiques. Les forêts vosgiennes ont cette atmosphère magique. Et c'était juste l'endroit idéal pour placer une histoire de loup-garou, d'autant plus avec le retour des loups. Je crois d'ailleurs avoir passé une petite anecdote comme ça dans le tome 1 avec un loup un peu imprudent, un loup-garou un peu imprudent qui se prend en photo par les journalistes au sujet du retour de loup dans les Vosges.
Et on croise des lynx aussi qui sont des animaux.
Exactement, j'ai choisi en majorité donc des animaux de la faune locale, bah justement pour rester aussi crédible, parce que les histoires de métamorphes, on a toutes sortes d'animaux plus surpuissants les uns que les autres. Bon, il y en aura aussi dans la série, mais à la base, je me dis si on est métamorphe, on s'installe quelque part pour passer inaperçu, pouvoir aller gambader sur ses quatre pattes. Je veux dire, si dans la forêt vosgienne, on croise un lion, ça va être un faire.
Ça fait une de la prestation. Leandro, on va partir en Argentine avec Leandro. On va voir différents aspects de ces tableaux parce qu'il y a plusieurs choses. Mais d'abord, on va quand même parler du petit dernier qui s'appelle Malicia parce qu'il nous emmène dans un endroit assez particulier. Qui est une ville balnéaire et qui est une espèce de Las Vegas argentin, on peut dire ça comme ça, avec tout ce que ça peut symboliser. C'est une ville qui existe vraiment.
C'est une chica, mais cada vez quizás más importante como lugar de veraneo en Argentina.
En effet, c'est un lieu qui existe.
más o menos en el centro del país, en una provincia muy conocida sobre todo por las montañas. Es una ciudad que cada vez se hizo más importante por la actividad teatral que tiene durante el verano.
C'est une ville qui prend de plus en plus d'importance grâce à ce théâtre et l'activité de cabaret qui se déroule l'été.
Todas las figuras que se hacen conocidas por escándalos mediáticos o por actuar en la televisión durante el año, a fin de año, en el verano suelen tener obras de teatro ahí.
Toutes les figures qui ont de l'importance à la télévision et qui sont connues de par leurs scandales, différents scandales auxquels ils se livrent, se retrouvent là pour jouer dans ces cabarets pendant l'été.
Al ser una ciudad chica, se tiene una cosa muy interesante que es un lugar muy, muy intenso.
Como si es una petite ville, se développe quelque chose de très intense de par cette population qui se concentre que l'été.
De por sí, las vacaciones tienen como ese momento de liberación de gente que va al trabajo todo el año y espera ese momento para liberarse y soltar todo lo que contenía.
C'est le moment adéquat où les gens se libèrent puisqu'ils ont travaillé toute l'année et là ils se lâchent pendant l'été dans cette petite ville Carlos Paz qui s'appelle Carlos Paz.
Même le nom Carlos Paz, la paix, c'est pas trop ça. En tout cas, quand on vous dit ce qu'il y a Leandro, je sais pas si c'est juste pour Leandro Los Bacha, c'est très intéressant de le retrouver sur cette table ronde parce qu'il est édité en France dans une maison qui s'appelle Asphalt et Asphalt est typiquement une maison d'édition qui axe ses publications sur la ville et sur les récits urbains. Et donc, effectivement, alors sous différents genres et sous différents aspects, il n'y a pas forcément du fantastique, de la fantaisie, ça peut être du polar, ça peut être des choses différentes, mais c'est vraiment l'essence, le génome d'Asphalt.
Et quizá por eso, ellos lo primero que publicaron fue en Massachusetts.
Le premier roman qu'ils ont publié, c'était vers Massachusetts.
Qui era como propiamente una novela mucho más centrada en la ciudad y en lo más urbano, Buenos Aires, quizás.
Qui est un roman encore davantage centré sur la ville et sur l'urbain et sur la ville de Buenos Aires en particulier.
On y reviendra évidemment à Massachusetts et on parle également du troisième livre Côté Court parce que lui aussi donne une place particulière à la ville. Vraiment particulier. Il y en a. On va l'initier. Cette fois-ci, on quitte la Amérique du Sud, on part en Asie avec vous et on part à Hong Kong. Un petit mot sur la fantaisie urbaine là aussi. Pourquoi ce choix d'aller vers ce genre-là? Et puis bah, pourquoi Hong Kong?
Alors, ce choix, c'est parce que, comme c'est un nom, j'ai une culture assez, on va dire, j'ai une culture américaine qui vient des comics de super-héros, de la littérature fantastique américaine. Et l'urban fantasy, c'est un genre qui est très, très américain, parce que les États-Unis ont une culture de la ville qu'on ne connaît pas forcément en Europe, en tout cas en France, parce qu'ils ont des véritables grosses métropoles dont ils sont très amoureux. Vraiment, quand on est New-Yorkais avant d'être américain, quand on habite Los Angeles, voilà, on a presque envie de faire sécession de l'Amérique actuelle. Ils ont une culture de la ville et qu'on retrouve justement dans le genre de super-héros. Que serait Batman sans Gotham, Spider-Man qui vient voler contre les immeubles de Manhattan. Donc, ils ont cet amour de la ville qu'en France, on ne trouve pas trop, parce qu'en France, on a une métropole qui est Paris. Et qu'on a du mal à se projeter. Déjà, en France, on a pas de mal avec l'imaginaire, donc on a encore plus de mal à se projeter dans le... d'imaginer nos villes qui puissent avoir des zones d'ombre fantastiques. Ce qui explique peut-être que le genre ne marche pas très bien en France, hein, quand on voit que même Bachelot n'a pas réussi à aller au bout de la série de Dresden Files, qui aux États-Unis est un best-seller à chaque tome sorti. Donc bon, c'est un peu triste. Et puis j'ai cette culture chinoise également, qui est ma grande passion, l'histoire, la culture, le folklore de la Chine. Et quand j'ai voulu faire de l'urban fantasy, parce que j'aime le genre, parce que j'aime le genre de cette culture américaine, je me suis dit, aux États-Unis, enfin, ils en ont déjà plein. Ça se passe à New York, ça se passe à Chicago, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Je déplaçais ça ailleurs, dans mon autre sphère de culture, si je mettais ça en Chine, et en Chine, on a Hong Kong, qui est vraiment une ville c'était l'endroit idéal. Donc j'ai fusionné un peu mon influence avec mon amour de culture chinoise, j'ai mixé les deux et j'avais le terreau idéal pour faire une fantaisie urbaine un peu originale, on va dire en tout cas exotique, et qui change un petit peu.
Avec deux tomes déjà parlé pour cette trilogie, dont on va évidemment bien sûr reparler dans un instant, et on va terminer ce premier tour de table avec Christine Lux. Bonjour. Votre regard un petit peu sur l'urban fantasy, parce qu'on va parler un petit peu juste avant la table ronde, on dit que ce n'était pas forcément votre genre de prédilection. Le roman s'appelle Les Papillons du Maître, c'est ça, auto-électrique. Et on est dans un, comme je disais en ouverture, on est là pour le coup dans presque le cadre originel de l'urban fantasy, c'est-à-dire la Londres victorienne.
Tout simplement parce que je pars des sources, c'est-à-dire que des sources anglaises, de la fantasy qui est née, la proto-fantasy qui est née au 19e siècle déjà.
Ça rapproche encore
un tout petit peu, ok, première fois. Et donc, j'ai pas envisagé écrire forcément de la fantasy urbaine, hein, j'ai envisagé écrire une histoire qui se révèle de la fantasy urbaine. Parce que ça convenait à cette histoire-là. Je suis tombée dedans. Voilà, c'est ça, plutôt dans l'autre sens. Et ça, c'est de la fantaisie urbaine, effectivement, puisque ça se passe à Londres. Donc, l'archétype hein, de la ville de fantaisie, ça se passe dans le cadre de d'auteurs qui ont écrit de la fantaisie, presque, enfin, comme Peter Pan ou James Barry, etc. Et ça parle de sujets qui préoccupent la fantaisie, effectivement surnaturel. Et moi, je voulais parler de l'au-delà, du monde de l'au-delà, qui a passionné hein, littéralement le 19e siècle et le début du 20e. Et je voulais en parler d'une manière qui s'échappe au fantastique, puisque c'était le côté scientifique, hein, on appelle ça un peu le merveilleux scientifique, hein, qui a persuadé de nombreux scientifiques à l'époque hein, qu'il existait un au-delà.
Scientifique et intellectuel.
Et intellectuel, donc Conan Doyle encore, qui était un littérateur. Oui, voilà, dans les littéraires, mais aussi Curie, Crookes, hein, des gens qui se sont penchés très sérieusement sur l'étude de cette possibilité de vie. Parce que le 19e siècle était très morbide. Hein, on vivait souvent. Quelle que soit la classe sociale, l'espérance de vie était faible. Mais on savait qu'on pouvait être sauvé, qu'on pouvait être soigné, mais on ne savait pas encore comment on découvrait. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et ce qui m'intéressait, c'était de découvrir ce monde, donc d'un point de vue presque métaphysique, entre la réalité sociale, la fracture sociale qui était terrible dans une grande ville, donc le cadre de la ville était important. Et les aspirations romantiques de ces gens qui voulaient vivre d'une façon très forte, ils amplifiaient leurs sentiments, ce qui était un romantisme, souvent ce que j'appelle le romantisme morbide. Voilà pourquoi, comment ?
Très bien. Et c'est vrai que, on parle d'urban fantasy, de fantasy urbaine, on a le mot ville. Alors finalement, la ville, elle est assez peu présente. On est plus à la campagne quand même, en forêt, comme vous le disiez un peu tout à l'heure. Mais il y a quand même quelques intrusions, on va dire, à Nancy, à Pont-à-Mousson. C'était aussi une volonté de votre part que ça ne soit pas forcément ancré uniquement sur un contexte urbain.
Je voyais mal des métamorphes évoluer uniquement en ville. Ça manque de logique, je ne sais pas si.
Alors, il a fallu que le postulat soit qu'il soit intégré dans la société, voilà. Ce qui pose un problème par rapport à l'histoire elle-même.
Exactement, puisque les humains n'ont pas connaissance de leur existence, il faut quand même qu'ils puissent cacher et prendre leur forme animale. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il fallait qu'ils puissent être à l'écart. Effectivement, il y a quand même quelques petites incursions, parce qu'ils surveillent quand même un peu leur territoire. Donc, on parle un peu de la place Stanislas à Nancy. Et de la place du Roc à Pont-à-Mousson. Je trouvais ça amusant, en fait, de placer.
Du tourisme, je vous remercie d'ailleurs.
Je trouvais ça très intéressant de placer les créatures surnaturelles des endroits que j'ai toujours connus, en fait. Avec, surtout pour Pont-à-Mousson, à la place du Roc, sandwicherie qui a changé de propriétaire depuis, mais qui faisait juste des sandwichs énormes. Quand j'étais lycéenne là-bas, on disait que c'est impossible d'en finir un. Et en écrivant le livre, je me suis dit, mais j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, il les fait pour les métamorphes qui sont de gros mangeurs. Ça collait parfaitement et je trouvais ça vraiment amusant de passer ça là. Et les amis qui vivent sur Pont-à-Mousson et qui ont lu tout ça ont vraiment envie, en fait, à l'évocation de tous ces lieux.
Ça reste quand même un contexte un peu particulier, puisqu'on le redit, hein, il y a ce secret de cette existence des métamorphes, qui veut dire aussi qu'il faut mener sa vie normale, il faut bosser, il faut s'amuser, il faut se détendre, il faut travailler, il faut se balader, etc. Et justement, tout ce travail sur le quotidien, d'une certaine manière, ce qui est presque encore une fois paradoxal quand on est dans un monde imaginaire.
Oui, mais c'est ce que je trouve intéressant, en fait. On s'identifie beaucoup plus facilement à des personnages qui nous ressemblent déjà, qui ont un quotidien similaire au nôtre, et que tout d'un coup, on introduit cette part de magie. On se dit, mais en fait, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être notre voisin, ça pourrait être notre prof, ça pourrait être le facteur, je ne sais pas. Et c'est ce qui rend les choses plus tangibles et plus magiques, selon moi. Je me souviens au lycée, ou non, c'était au collège, on étudiait un peu les récits fantastiques, où il y a vraiment cette limite entre le réel et l'irréel, où en fait, elle devient extrêmement floue. Alors là, on est loin, enfin, on est quand même loin de la nouvelle fantastique de l'époque, mais je voulais jouer un peu sur cette limite-là, essayer de plus trop distinguer le réel de l'irréel, faire vraiment comme si c'était dans notre monde, que tout ça soit possible, que réellement on croise des gens tous les jours et en fait on ne sait pas, mais ils ne sont pas tout à fait normaux.
Il y a une idée qui m'est revenue en écoutant Romain d'ici il y a quelques instants parler. De l'urban fantasy en lien avec les super-héros. Dans Malicia, tout démarre dans une revue, puisqu'on l'a dit, hein, c'est une ville, Carlos Paz, il y a énormément de cabarets et de spectacles de revues. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème de la revue où tout démarre?
Si, en Malicia, toda la obra de teatro, que es una especie de musical, tiene que ver con la vida del chopper.
Est relié au Joker dans le monde de la comédie musicale.
L'univers de Batman.
C'est l'univers de Batman.
Basiquement, comme que sont musicales qui ont à voir avec certains épisodes de différents comics sur le Joker, sempre.
Donc, tous les spectacles ont une relation avec le Joker, et dans toutes les comédies musicales, on introduit ce personnage. Il y a toujours un rapport au Joker.
Básicamente porque, bueno, era un personaje que me gustaba mucho desde siempre y también porque cuando escribí La Malicia tuve muy presente siempre las películas de Argento y El Giallo.
Donc, básicamente, c'est parce que c'est un personnage que j'ai toujours adoré, mais en plus parce que j'avais toujours à l'esprit aussi les films d'Argento, de Dario Argento avec Le Giallo.
Y pensaba que esa figura típica del asesino de guantes y cuchillo y algo siempre muy vinculado a la locura, tenía algo hasta estético que me acercaba a la figura del Joker.
Parce que je pensais que ce personnage, cet assassin, ce personnage d'assassin au corps et couteau, j'ai toujours rapproché dans mon imaginaire du Joker.
Voilà, puisque donc toute l'histoire démarre dans les coulisses de cette revue avec un assassinat qui va en amener d'autres, puisque le départ de l'histoire, c'est une histoire de tueur en série.
Si, hay un poco también tomando un personaje de una película más conocida de Argento, Profondo Rosso, en el que hay una medium.
Là aussi, je me suis un peu inspiré d'un film d'Argento qui est très connu, qui est Rouge Profond.
Que es una médium que presiente que en la sala hay un asesino y que está hablando.
Entonces, es una médium que presiente que en la sala hay un asesino que está hablando.
Y entonces, justamente, esta médium está presenciando esta obra
femme, qui elle aussi pressent les meurtres qui vont commencer à se dérouler. Et elle sent l'esprit du Joker qui plane et qui s'apprête à commettre son premier assassinat.
Y es un grupo de mujeres que en ese momento entran como en un trance un poco colectivo entre todas, escuchando esta vedette.
Donc en écoutant cette vedette médium, il y a tout un groupe de femmes, il y a une hystérie collective qui commence à s'emparer d'elle, entre l'au-delà et le crime qui va se produire.
Y un poco van llevando adelante la historia, casi la investigación, de modo muy activo, ella sin ser detective ni nada.
Qui en même temps font avancer l'énigme, l'intrigue et la résolution de celle-ci, alors qu'elles ne sont pas du tout détectives.
On va y revenir sur le détective un mot tout à l'heure. Un mot d'ici. Pour ceux qui ne vous auraient pas encore lu, c'est vraiment un tort, je vous le dis, parce que c'est vraiment, pour le coup, un excellent divertissement de lire les 80 frères, puis la résurrection du dragon, en attendant le dernier tome, qui arrivera bientôt. Qui est Johnny Quan? Johnny Quan, c'est le héros, donc c'est un archétype assez classique du détective de roman noir. Donc c'est l'homme, voilà, comme on voit sur la couverture avec son grand manteau, on fait appel à lui dès qu'il y a une affaire un peu louche. Et à cet archétype donc, de roman noir, sur l'urban fantasy et aussi en fond du polar et de la fantasy, j'ai donc plaqué un autre archétype, celui de la fantasy, qui est le magicien. Donc c'est un magicien taoïste, un exorciste chinois. Comme les attractions qui ont le mais sont souvent particulièrement surnaturelles, il a tout à fait sa place, à la fois en tant que détective, puisqu'il remonte une enquête, il trouve des indices, mais lui il trouve les indices en interrogeant les esprits des morts ou en se rendant dans une maison de triade tenue par un roi dragon ou des choses comme ça en fait. Et puis c'est un héros de chinois, profondément chinois, puisque c'est un lettré, donc magicien forcément un taoïste, donc il ne s'exprime pas en argot ou autre, comme on le voit souvent dans les polars, c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est cultivé, qui a une grande culture classique chinoise. Et puis forcément, en tant que chinois, bah, il fait du kung fu. Et il se bat avec des flingues à la John Woo, donc des flingues enchantées, bien sûr, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est la fusion. Parce que dans la résurrection du dragon, il y a une scène de fusillade sur une autoroute qui est le lit, où la grosse poursuite est flanquée.
Voilà, c'est un triple archétype en fait. C'est le détective du polar noir, c'est le magicien de fantasy, et c'est le moderne héros, comme on dit, comme on qualifie les films de John Woo, c'est le moderne héros chinois actuel.
Alors là, merci de ce que disait Estelle tout à l'heure. Là, pour le coup, tout est vraiment totalement assumé. Et c'est même aussi ce qui est très intéressant dans cette trilogie, c'est que le surnaturel se marie totalement avec l'univers urbain dans lequel ça se déroule.
Oui, en fait, la Chine, le Japon, enfin l'Asie en général, mais pas particulièrement les gros empires comme la Chine et le Japon n'ont pas du tout été évangélisés ni colonisés. Donc ils ont gardé leur croyance, ils ont gardé leur religion. Donc en Chine, enfin bon, un peu détruit tout ça, mais Hong Kong étant à l'époque une ville sous domination anglaise, qui leur foutait la tête niveau religion, ils sont taoïstes, ils sont bouddhistes, ils ont leur syncrétisme à eux, ils croient encore aux dieux taoïstes, ils sont bouddhistes, ils ont des temples, des hôtels, ils sacrifient, ils font brûler de l'encens, ils restent des prières immortelles. Et pour eux, c'est aussi naturel que pour nous d'aller à l'église, de prier, de faire notre communion et tout.
C'est une surprenante personne d'être servi dans un magasin par une créature.
Alors, si, ça les surprend quand même, puisqu'ils ont ce fond de superstition et de croyance. C'est pas pour ça qu'ils pensent que c'est encore d'actualité. C'est le héros, lui, et c'est semblable, les autres magiciens taoïstes qui savent que le surnaturel est là. Et effectivement, certaines créatures, ne sont pas des humains, vivent en bonne intelligence. Qu'une femme d'esprit renard peut parfaitement être serveuse dans un bar, j'attends qu'elle paye ses impôts et tout, personne n'emmerde quoi. Mais quand elle va commencer à voler l'énergie donc, des êtres humains, c'est là que nos héros interviennent. Préserver un équilibre entre le naturel et le surnaturel.
Christine Lewis, on est donc dans les papillons de maître, dans cet univers très sombre, très particulier de Londres à l'époque victorienne. Et nous avons qu'est-ce que vous avez voulu faire avec les papiers en géomètre?
Ce qui m'intéressait le plus, c'est de créer un personnage qui n'est pas de chair et qui est pourtant une énorme envie d'exister, d'être quelqu'un, de savoir. Et donc, c'est ce personnage spectral qui a perdu la vie, qui se retrouve dans cet au-delà, est amnésique. Il est amnésique de sa propre individualité. Par contre, il a tout à fait le souvenir de ce qu'il a, de quel état était la Terre au moment où il a disparu de cette Terre. Il s'est retrouvé dans une terre quasiment imbriquée dans la nôtre, dans une réalité à peine une marche plus haut, d'après la média, mais l'impression que c'est toujours un petit peu plus haut. Et là, il s'est soumis à ça, il n'a plus aucun accès au monde vivant, à part par l'intermédiaire de quelques vivants comme la média, mais d'innocents.
Et d'ailleurs, il a quand même perdu son identité puisqu'il n'a plus de nom.
Il est amnésique, voilà. Et la seule manière, d'ailleurs, dans l'histoire, la seule manière pour les esprits de retrouver cette mémoire de vivant, c'est qu'un vivant les appelle. C'est un nouveau baptême, c'est-à-dire qu'il vient du monde vivant. Tant qu'on ne les appelle pas, ils n'existent pas en tant qu'individus. En fait, ici, ils existent. Et justement, ça leur pose un problème énorme, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Déjà, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, puisque tous les morts ne vont pas dans ce monde, contrairement à ce que les médiums, enfin, les chercheurs de l'au-delà pensaient. Et ils ont donc établi une société qui est extrêmement particulière. On en a un petit aperçu parce que je me suis concentrée sur des personnages qui sont en fait l'équivalent de chercheurs scientifiques de cet au-delà et qui essayent de trouver des réponses. Et donc, la médium, la jeune médium, qui était quand même très effrayée de ses pouvoirs intermittents, on dit,
fait des choses différentes.
Oui, tout à fait. Ça lui permet un incident, une jeune morte. Disparaît du monde vivant, donc elle a disparu, mais 5 ans plus tard, la jeune morte disparaît également. Donc c'était quand même une double disparition étonnante. Et comme on envoie l'enquêteur, parce que cette disparition intrigue aussi la société des morts, eh bien ça va être le moment de jonction, de fusion, la rencontre entre deux personnes qui peuvent dire voir le monde de l'autre.
C'est un peu mal de risque, lui, mais avec un fantôme, une vision. C'est un petit côté comme ça. Parlons un peu des créatures, on l'a dit, donc ce sont des métamorphes, j'ai retenu la façon de le dire, si on ne redit pas des vidéos, ce sont bien des métamorphes. Ils vivent en meute, ce qui évidemment déjà pose sans doute, on imagine un peu de problèmes, ce qui les oblige un peu à vivre avec l'air également. Et Kayla, votre personnage principal, est une paria.
Oui, en fait, elle a été élevée par son grand-père, qui est l'alpha de son clan, donc le chef, qui est très conservateur et de cette terre aussi. Et ils ont vraiment la culture de la puissance, de la force. D'ailleurs, ce clan a une réputation assez effrayante pour les autres. Ils en jouent justement pour pouvoir rester tranquille chez eux, pas être embêtés. Sauf que Kayla, elle n'est pas capable de se transformer, contrairement aux autres, ce qui est vu comme une véritable faiblesse, voire un handicap. Elle se fait plus ou moins rejetée par les siens, elle se fait pas mal malmenée aussi, et donc son grand-père, sous couvert de la protéger, décide de l'exiler. Il lui demande carrément de partir, il la met à la porte, à faire ta vie. Donc elle se retrouve dans un univers qu'elle ne connaît pas, puisqu'elle est très peu sortie des montagnes vosgiennes. Et donc elle prend la route sans trop savoir où elle va jusqu'à arriver à Nancy.
C'est un personnage qui va, en tout cas au fur et à mesure de ce tome, et on imagine de plus en plus dans la suite de la série, prendre une certaine forme d'assurance. On va faire un tour là aussi que l'urban fantasy, ça repose aussi souvent sur des personnages féminins forts. C'est pas forcément le cas de Kayla au début, ça le devient petit à petit.
Au début, elle est très naïve, elle a peu de moyens de défense, fin de la trilogie, qui est qu'on montre vraiment l'évolution du personnage, de son caractère, pas seulement de ses pouvoirs, vraiment mentalement aussi montrer qu'elle grandit, qu'elle apprend les choses de la vie, en fait, tout simplement. Donc au début, elle est très naïve, elle a tendance à faire confiance un peu trop facilement, comme beaucoup de gens, je pense. Mais au fur et à mesure de ses aventures, effectivement, elle va. Son caractère va vraiment se durcir. Même si elle aura toujours sa sensibilité, mais voilà, quand il y a quelque chose à faire, elle remonte les manches, elle le fait. Comme une personne adulte aujourd'hui, je pense. Voilà.
On va se défendre et se battre. Et on verra que dans le cours du roman, on croise d'autres personnages féminins qui jouent des rôles très importants. Mais là, on va vous laisser lire le roman. D'ailleurs, c'est la même chose avec Leandro, parce qu'on ne va pas trop parler du personnage féminin, qu'il faut vraiment découvrir au fur et à mesure, parce qu'ils ont ces femmes ont des rôles très particuliers dans l'histoire, et qu'on va voir comment justement elles aussi évoluent. On va parler d'un personnage masculin, parce qu'il y a un policier dans cette affaire, et que ce brave garçon, il est un peu largué quand même, il est un peu perdu.
Il y a un personnage qui est un détective de la police officielle, digamos, porque también hay una especie de policía de lo paranormal en Malicia.
Donc, en fait, il y a un personnage qui fait partie de la police réelle, parce qu'il y a aussi un autre personnage qui fait partie d'une police paranormale, du paranormal.
Et un policier qui est quasi por jubilarse, por terminar su carrera, y justamente se enfrenta a un caso que en algún punto lo sobrepasa por todo lo cruento de los asesinatos en sí.
Y en plus, il s'agit d'un policier qui est vraiment sur le point de prendre sa retraite, et il est assez âgé, il est totalement dépassé par ces événements surnaturels qui lui tombent dessus.
Pero también lo sobrepasa en su propia mentalidad, es alguien movido por una lógica que la novela pone en crisis.
Il n'est pas seulement dépassé par ce surnaturel, c'est aussi sa logique, parce que le roman, la construction du roman, le met en crise lui-même.
Enfrente a este mundo donde todo lo sobrenatural irrumpe y él no ya no está en un estado de poder comprenderlo tampoco.
Et donc lui se retrouve là dans une situation où il est réel, une énorme éruption dans sa vie quotidienne, et lui n'est plus du tout en mesure, il n'avait pas du tout la capacité de l'appréhender même.
Et ça va ne faire que s'aggraver au fur et à mesure, parce que ça va partir vraiment dans la difficulté et dans l'horreur, on peut le dire. ça, on peut le dire. Mais voilà, ça va être une enquête qui aurait pu. Il y a tout pour être le couronnement de sa carrière, on va dire. C'est un peu ça l'idée aussi.
Sí, me interesa por sí mucho ese la novela. De hecho, también hay jubilados.
Ça m'intéresse d'aborder ce thème. D'ailleurs, dans ce roman, il y a aussi des personnes à la retraite, d'autres personnes à la retraite.
También en Massachusetts había jubilados.
Et dans les Massachusetts, déjà, j'avais déjà travaillé sur les personnages de retraité.
C'est un moment que m'intéresse beaucoup à l'heure d'écrire.
C'est un moment qui m'intéresse beaucoup d'aborder, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup au moment de me mettre à écrire.
Que passe en la société, basiquement, con la gente, et comme à veces, se les ubica en ce lugar de.
Pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ces personnes qui sont à la retraite et la façon dont on les rend, où on les présente comme des personnes inutiles et on les rend jusqu'à invisibles.
Et que también el mismo se lo empieza a cuestionar enseguida desde otro lugar.
Donc on commence à le remettre en cause lui aussi, puisqu'il s'approche de ce moment fatidique de la retraite.
Et ça, la confiance también de los otros, de que. Esa persona ya casi inútil puede resolver una cosa compleja como la que está ocurriendo
cette personne déjà âgée, comment elle serait en capacité de pouvoir résoudre une énigme de meurtre aussi compliquée.
Et bien, ça, vous le verrez en lisant le livre, voir où il va aboutir, ce brave policier qui mène son enquête à l'ancienne, on va dire, vraiment pour le coup. On parlait des personnages forts. Alors évidemment, on a Johnny Cohen qui est le personnage central, hein, celui qui est un peu aussi le moteur de l'histoire et de l'action. Mais quand on s'est croisé il y a quelques jours sur une autre table ronde autour du prix des lycéens, vous avez évoqué la force de certains personnages, qu'on va dire secondaires, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, même si c'est pas toujours très agréable, et qui sont les personnages féminins justement.
Oui, en fait, il y a deux personnages féminins très très importants dans cette. Il y en a même trois en fait, hein, si je pourrais dire, qui sont les trois femmes de la vie du héros. Il y a déjà son amour de jeunesse, qui est. Ils sont connus, ils étaient enfants dans le même petit village. Lui a migré à Hong Kong, puisque un maître taoïste l'a repéré ses pouvoirs et l'a formé. Elle est venue quelques années plus tard réussir dans le showbiz, dans le milieu un peu underground, et ils se croisent, surtout ils n'arrivent pas à être tout à fait ensemble, ils s'aiment, mais sans réussir, et de toute façon, c'est une relation un peu dysfonctionnelle, mais qui leur est totalement essentielle. Surtout lui est très dépendant d'elle, comme on le voit dans l'unique scène de sexe du livre, il est totalement dépendant d'elle, et elle est beaucoup plus indépendante que lui, beaucoup plus forte que lui finalement. La deuxième femme de sa vie, c'est une nonne bouddhiste, donc qui pour le coup est au contraire est totalement asexualisée, puisque c'est une religieuse, mais c'est une religieuse shaoline, c'est-à-dire qu'elle mode des culs très sévèrement, et c'est probablement le personnage le plus puissant de cet univers. C'est elle qui l'entraîne, parce que dans le premier tome, il s'est pris tellement de pain dans la gueule qu'il se dit je ne suis pas au niveau, il faut qu'elle m'entraîne. Effectivement, c'est un petit peu pour lui, c'est une figure peut-être de grande sœur protectrice, quelque chose en tout cas de fait qu'on voit un petit scarabée. Oui, vraiment, elle serait plusieurs mètres, hein, mais elle, effectivement, est peut-être la dernière qui l'aura. Et le troisième personnage féminin fort, c'est celle qui incarne Hong Kong, puisque la grande déesse de Hong Kong dans la tradition chinoise s'appelle Tim Hao, et c'est la déesse de la mer et des pêcheurs, et Hong Kong étant le plus grand port d'Asie, c'est la déesse tutélaire de la ville. C'est elle finalement que tous les taoïstes, tous les magiciens de la ville honorent. Elle est l'incarnation de la ville, elle est leur grande protectrice, leur sainte patronne. Donc c'est une présence immatérielle, mais qui est quand même très très présente dans le livre.
Donc on voit, il y a des personnages féminins forts, c'est aussi le cas chez Christine Luce. Il y en a deux d'ailleurs, moi je pense qu'on peut les mettre sur le même plan, parce qu'il y a la médium, et puis il y a sa...
Son ami, mais c'est difficile d'être ami comme ça. Et non, c'est vraiment une question d'origine, hein, d'origine sociale. C'est difficile d'être deux femmes indépendantes et d'être amies, et de vivre à Londres à cette époque-là. C'est donc des personnes qui ont un tempérament effectivement très fort, qui n'est pas spécialement remarquable en public, hein, parce que la discrétion du ministre, on ne l'invite pas, on ne provoque pas comme ça, c'est très risqué. Mais c'est des tempéraments, enfin des femmes intelligentes, des femmes qui abordent la modernité avec les suffragettes, justement. Et donc, ce sont les premières femmes qui essayent de vivre pour elles-mêmes, par elles-mêmes, et qui se font une vie qui est complexe.
Ça va quand même bien pour briser les codes.
Oh, elles ont un petit côté provocateur, mais elles sont jeunes. C'est le propre de leur jeunesse. Hein. Ce sont des jeunes femmes. Elles ont,
et comme vous disiez, qu'elles ont un caractère fort, y compris entre elles, parce que de temps en temps, ça fait des étincelles.
Hein. Tout à fait.
Elles ne se ménagent pas l'une l'autre.
Oui, mais tout à fait, parce que je pense que les meilleures amies, enfin, quel que soit le sexe, mais quand on est amis, et ben, on ne lâche pas ces mots. On a un comportement direct. Hein, je pense que je l'explique d'ailleurs d'une façon formelle à un moment donné. L'affection est au-delà du conflit. Elle se voue une affection réelle, hein, forte, puissante, elles sont là l'une pour l'autre.
Leurs engueulades
sont l'expression de cette affection, vraiment, puisque on a cette médium qui a tendance à vouloir s'aventurer de plus en plus loin, à prendre de plus en plus de risques, et à son amie qui s'inquiète pour elle, elle est vraiment, elle est touchante, elle est sincère.
Tout à fait, tout à fait. Et l'une on pourrait dire que la médium est l'une qui est très, qui est la plus intellectualisée, et qui a des convictions. Elle va défendre, et elle les défendra, parce que c'est comme ça, c'est une femme de conviction. Et sa compagne, eh bien, elle en a aussi, mais elle les gère peut-être un petit peu moins bien, parce qu'elle n'est plus encore influencée par l'éducation féminine. Mais malgré tout, elle était très forte, parce qu'elle va aller au-delà pour aider son amie, parce qu'elle comprend ses convictions. Elle ne l'aurait pas fait, mais par simple solidarité, elles vont s'épauler l'une l'autre. C'est vraiment important.
C'est vrai que les relations entre les personnages sont très très importantes. On ne va pas en dire trop, mais vous verrez au fur et à mesure que l'histoire se déroule, et en particulier dans son dénouement, dans sa dernière partie, voilà, c'est aussi quelque chose qui n'est pas juste une thématique accessoire. On est vraiment dans une histoire où les sentiments, les relations entre humains sont très forts.
Tout à fait, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment une enquête de fantaisie urbaine classique, hein, avec une résolution. Il y a réellement une enquête, hein, il y a réellement l'introduction de l'au-delà, mais au-delà, il y a un background très fort qui m'intéressait au plus haut point. C'est vraiment ça, les connexions entre les esprits, plus que, et justement, prendre un esprit pour pouvoir montrer quelles sont les limites, quelles sont les possibilités, quelles sont... Et c'est très romantique, c'est vrai. Comme le 19e siècle.
C'est toute la différence avec le livre d'Estelle Wagner, où au contraire, là, pour le coup, les relations entre les personnages sont beaucoup plus délicates, complexes, voire carrément fausses. Faut se méfier de tout le monde.
Un peu comme dans la vie, parfois, heureusement pas toujours. Non, en fait, j'ai découvert que je prenais beaucoup de plaisir à essayer de berner les lecteurs. Je trouve ça tellement plus amusant. J'ai joué sur beaucoup de révélations, beaucoup de trahisons. Certaines que je laissais deviner, d'autres pas. Et mon petit plaisir, c'est de demander aux lecteurs ce qu'ils avaient vu venir, ce qu'ils n'avaient pas vu. Et ce qui est amusant, c'est que certains voient une partie, pas l'autre. D'autres lecteurs voient exactement l'inverse. Quelques personnes ont tout deviné, elles sont rares quand même. Mais il n'y a qu'une personne qui a vu un petit détail. C'est juste mon père, c'est le seul à avoir relevé une chose, lui qui ne voyait jamais, normal, pour le dire. Il est venu me voir, il me dit tiens, mais ce personnage, là, j'ai rien, ne parle pas, personne m'en a parlé.
Même les trahisons, finalement, parfois, sont à double sens, hein, d'une certaine manière. Hein, c'est qu'il y a des trahisons pour le pire, hein, mais il y a parfois des trahisons pour le meilleur aussi, ce qui est assez curieux.
Oui, il y a... Parce que, bon, c'est Kayla, la principale victime des trahisons, évidemment. On peut la trahir pour son bien, on peut la trahir parce qu'on lui fait au contraire du mal. Il y a un peu de tout. Je voulais vraiment qu'on voit qu'en fait, il n'y a pas de personne vraiment... gentilles et d'autres méchantes. Dans la vie, c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Chacun a un peu sa part d'ombre et sa part de lumière. Et je voulais jouer là-dessus sur les personnages, dire voilà, il y a des personnes qui paraissent super gentilles, super adorables, mais qui ne sont pas forcément. Et à l'inverse, des personnes qui sont détestables, mais qui ont un bon fond.
Et c'est tout ça qui va forger Claire. Et je précise aussi que, comme chez Romain, il y a aussi des arts martiaux. Hein. Ça fait aussi partie de l'apprentissage. Mais c'est aussi un apprentissage à la dure. Hein. C'est pas du tout le même type d'apprentissage, mais c'est pas simple non plus. Mais en dehors de ce match-là, il faut qu'on parle quand même de Buenos Aires. Parce que c'est quand même aussi. C'est la grande ville argentine, hein, je crois. Je suis pas sûr qu'on se rende bien compte, nous Français, de ce que représente Buenos Aires en Argentine. C'est Paris, mais c'est encore au-delà de ce que peut être Paris en France, Buenos Aires en Argentine.
Et, si, Buenos Aires, basiquement, c'est la ciudad más grande et más importante de l'Argentine en tous ces aspects. Donc, toute l'activité también éditoriale et l'activité d'écriture sont très concentrées à Buenos Aires.
Oui, toutes les activités sont concentrées notamment en ce qui concerne la littérature et les éditoriales et les maisons d'édition.
Empezar a hablar igual a abrirse con muchos focos en, por todas las otras provincias, pero sí estando todo muy concentrado en Buenos Aires.
On commence à avoir d'autres points où se développe cet aspect culturel dans notre ville d'Argentine, mais ça reste quand même concentré sur Buenos Aires.
Y quizás también siempre era Buenos Aires, la ciudad, el centro de la ciudad, lo que más aparecía en la literatura argentina.
Et en plus, c'est une tradition que ce soit la ville, cette ville de Buenos Aires. Parce qu'en fait, il y a la ville de Buenos Aires et le grand Buenos Aires.
La conversation.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Buenos Aires, ça se confond. Et donc, c'est aussi cette ville de Buenos Aires qui apparaissait déjà dans toute la littérature argentine.
Mais depuis hace, unos 20, 30 ans, je crois, cada vez ils sont plus. Más numerosos los casos de una literatura que trabaja justamente con esa periferia de Buenos Aires y no con el centro.
Donde prima 30 años, como se llama literatura que se concentra sobre de pueblos en la periferia de Buenos Aires, y même un peu plus loin.
Y quizás lo que todavía es más interesante es que muchas de esas literaturas eligen hablar de esa zona de Buenos Aires desde una literatura de género y una literatura de imaginal.
Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que tous ces romans qui traitent de Buenos Aires choisissent de regarder la ville depuis l'extérieur, depuis la périphérie.
On va parler de côté court, alors, puisqu'on est sur ce sujet-là, qui est, alors, c'est un recueil de nouvelles plutôt qu'un roman. C'est 5 histoires différentes, mais qui se recoupent, qui forment finalement un unique récit d'une certaine manière. Et alors là, c'est aussi une question de point de vue, puisqu'on est dans des maisons, dans une rue, vous imaginez ça, hein, quartier pavillonnaire, plutôt aisé, a priori, et comme le titre français l'indique, on ne le voit pas depuis la rue, on le voit depuis l'arrière des maisons, c'est-à-dire depuis la cour. Et ce qui se passe dans ces cours est évidemment caché. Si on était de l'autre côté, on ne le verrait pas. Et c'est juste abominable ce qui s'y déroule en fait dans ces cours. Ne riez pas quand je dis ça, c'est pas possible à chaque fois.
Tanto en Massachusetts comme en côté cours, penser un peu comme decía Estelle, siempre es trabajar con el lugar propio de uno y donde hay una relación casi natural entre lo cotidiano y lo sobrenatural.
Dans le côté court, j'ai fait comme Estelle et j'ai voulu travailler sur ce que je connais, sur ce que l'on connaît, et commencer à le mélanger avec le surnaturel.
Pero en Massachusetts había una cosa como muy colectiva y social, casi de fresco de un momento de la Argentina en particular.
Donc, dans Massachusetts, par contre, il y avait quelque chose, un aspect très social qui dépeignait une fresque de l'Argentine de ce moment-là.
Je précise juste pour ceux qui n'auraient pas lu Massachusetts que c'est une histoire de zombies, c'est-à-dire que c'est un zombie dans Buenos Aires et que c'est ce zombie qui va être, en plus un zombie punk, comme précisé, qui va être le moteur de toute cette histoire qui est une satire sociale de l'Argentine, de la crise économique que le pays a connue au début du siècle.
Y en côté court, fue un punto de trabajar ese mismo espacio, pero desde una mirada mucho más acotada, justamente a lo que vos decías, a una casa.
Par contre, dans le côté court, voilà, j'ai voulu aborder le cadrage d'un côté de l'intérieur et de ce que l'on pouvait voir de ces cours vers la maison.
Una de esas cosas de un tipo de barrio como podría ser Massachusetts, pero donde hay una premisa que es la que conecta todos los cuentos.
Donc là, j'ai voulu construire à partir d'une prémisse qui connecte tous les contes.
Es que en cada casa reciben a un preso.
Et donc il s'agit en fait dans chaque maison, ils reçoivent un prisonnier. Ils hébergent un prisonnier.
Tienen una prisión domiciliaria para este preso a cambio de una ayuda económica del Estado.
parce que voilà, on se peut imaginer ce qui peut peut-être se passer dans nos vies également, si on pouvait avoir des cours, des portes, etc. C'est un roman assez troublant, c'est vraiment c'est le livre le plus noir, en tout cas, mais en gros, les autres, c'est beaucoup plus drôle, même si il se passe beaucoup de choses horribles et sanglantes, mais on s'y amuse énormément côté cours. C'est déjà beaucoup plus glauque, hein. On fait des choses. On l'a dit, on a Hong Kong qui est un personnage à part entière de cette trilogie. Et quelque chose que vous n'avez absolument pas changé dans le roman, c'est simplement ce passage quasi permanent de l'ultramodernité à la plus ancienne tradition. C'est assez troublant quand on vous suit dans les rues de voir à quel point on peut se succéder un gratte-ciel. Et puis un lieu de culte.
Oui, c'est des choses qui sont tout à fait réelles. Hein. J'ai absolument rien inventé de la géographie de la ville, qui est une ville totalement schizophrène en fait. C'est à la fois le pont vers l'avenir, vers l'ultra-capitalisme. C'est une ville totalement libérale, hein, malgré qu'elle soit rattachée à l'Empire chinois communiste. Elle reste une ville très capitaliste, très. La plus grosse place financière d'Asie, le plus grand port de commerce d'Asie, une mégalopole de 10 millions d'habitants qui attire des migrants venus de l'Asie du Sud-Est, parfois dans des conditions absolument abominables. C'est vraiment la ville extrêmement moderne et presque occidentale. Hein. Quand on voit ces immeubles et tout, on pourrait se croire à New York ou dans une grosse métropole américaine. Mais à côté de ça, entre ces îlots d'affaires, entre ces quartiers très moderne, on va trouver des choses pour les traditionnels, on va trouver des temples taoïstes, on va trouver un monastère où vivent des bouddhistes totalement isolés du monde, qui sera entièrement construit en bois, en plus, sans usage de clous. J'avais décrit d'ailleurs dans le tome 2 le monastère de Chilin, qui n'utilise que des techniques traditionnelles de construction, et qui est vraiment en plein milieu d'un quartier parfaitement moderne. Vous avez un quartier entier qui est tourné vers la religion, qui est le quartier de Palestine, où on trouve un grand temple, plein de petites ruelles, des devins qui peuvent vous faire des tirages de viking pour vous dire si vous allez réussir vos examens ou signer un contrat très fructueux. Des géomanciens, c'est la seule ville du monde où on les permet de construire sont assujettis à la vie d'un géomancien. C'est-à-dire que votre projet architectural, il faut qu'il respecte les souffles yin yang, les dragons qui ne dérangent pas les esprits, sinon vous n'avez pas le permis de construire. Donc il y a une image qui est célèbre, c'est celle d'immeubles qui sont en bord de mer, une grande barre d'immeubles avec des trous au milieu. Et les trous ont été faits pour laisser passer le souffle du dragon. Parce que s'il est bloqué, ça crée des miasmes maléfiques et du coup ça porte malheur. Et donc ça a coûté un fric fou de faire ça, mais ils l'ont fait parce qu'ils respectent le truc. Donc oui, c'est totalement schizophrène.
Et donc ça fait un univers parfait pour un prière, c'est de bonne fantaisie.
Mais tout à fait, puisque le terreau surnaturel est déjà là, il n'y a plus qu'à le rencontrer. Et le héros navigue naturellement entre les deux pôles, tout simplement.
Christine, si ce sera la dernière question de cette table ronde. Le Londres dans lequel vous nous emmenez est un Londres qui évoque pratiquement chez chaque lecteur des références qui lui seront propres, hein, sans doute par rapport à cet univers de lecture, mais où on se retrouve aussi bien chez Conan Doyle que chez Wells, que chez peut-être même Gallagher pour des auteurs plus récents. Enfin voilà, c'est un vrai Londres littéraire que vous nous proposez.
Oui, c'est vrai, c'est un collectif littéraire, le melting pot de la littérature que je lis depuis toujours. Hein, et je ne sais pas quelle source je les prends parce qu'il n'y a pas de source précise. C'est simplement, j'ai énormément lu, j'ai énormément imaginé, j'ai les imaginaires ouverts, donc j'ai toujours aimé imaginer sur l'imagination des autres. Et donc, effectivement, c'est totalement littéraire. Littéraire, comme la littérature peut être prise pour quelque chose d'extrêmement tangible et qui a une énorme importance dans notre vie, parce que c'est notre culture, c'est la fiction, c'est notre réalité qui n'est pas tangible, hein, mais elle est quand même quelque chose qui nous fait fonctionner tous les jours.
fantasy urbaine ou que vous ayez envie de découvrir le genre, alors voilà, penchez-vous sur les ouvrages de nos auteurs présents à cette table ronde. On espère qu'on vous a donné quelques envies, quelques possibilités d'entrer dans ces univers urbains où vous voyez qu'il se passe quand même énormément de choses aux quatre coins du monde, avec des visions, des regards, des cultures différentes. Et vous avez un joli panel avec beaucoup de choses très différentes, très intéressantes. Je pense que chacun aura l'occasion de trouver chaussures à son pied et son plaisir de lecture dans ces livres. Et merci aux auteurs d'avoir joué le jeu. Vous pouvez évidemment aller trouver ce fabuleux livre pour continuer la discussion et profiter encore de quelques dédicaces avant que certains